Les pieds sur terre, Sonia Grönlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Il faut dire que choisir le 15 juillet, jour de la finale de la Coupe du Monde de football, pour organiser une manifestation, n'était pas un pari gagné d'avance. Nonobstant, suite à l'appel à la grève lancé par le collectif des livreurs autonomes parisiens aux livreurs des plateformes Deliveroo, Foodora, Uber Eats, Stuart et Glovo, ils se sont réunis le 15 juillet à Paris pour protester contre leurs conditions de travail et de rémunération peu enviables. Eux, ce sont ceux qui arrivent chez vous en vélo avec leur grande boîte sur le dos lorsque vous avez une brusque envie de soupe thaï ou de burger bio et la flemme de sortir. Ils sont auto-entrepreneurs, selon les plateformes, ils sont payés à la course ou au kilomètre. Mais ils savent rarement à l'avance combien ils gagneront par course et a fortiori par mois. Ils réclament une tarification horaire minimum garantie, ainsi qu'une prise en compte de la pénibilité de leur travail via différents bonus, primes de pluie, de week-end, de nuit, primes pour événements exceptionnels, etc. Pour qu'une grève fonctionne dans le secteur ubérisé, il faut que tous les livreurs se déconnectent de la plateforme qui les embauche et que les clients aussi, en renonçant à commander de la nourriture. Pour qu'à la fin, l'algorithme, le véritable patron, tourne à vide. Pas de banderole ni de pneus brûlés, il suffit d'éteindre son smartphone et c'est l'agonie du système, le sabotage 2.0. À la fin de la journée, ce 15 juillet, le triomphe des footballeurs français était certain, celui des grévistes à vélo un peu moins. On en a compté une dizaine tout au plus à manifester, qui ont tous fini la journée comme les autres devant la télé. N'empêche qu'on a décidé de les écouter, tout de suite dans les pieds sur terre, La chouette vie à vélo par Valérie Borst.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Ouais, allez, vas-y, les Deliveroo, bravo, on vous soutient.
On n'est pas nombreux, mais on est là.
En fait, faut pas dépasser sur les côtés et vous pouvez vous avancer. Ah bah si, prenez des vélos carrément.
Alors on est au 83 rue d'Aboukir devant un mur végétal splendide qui est un endroit où visiblement souvent les coursiers viennent se retrouver et c'est donc là qu'ils ont donné rendez-vous aujourd'hui.
Et vous êtes coursière ?
Non, du tout, moi je suis solidaire pour soutenir et pour essayer de faire disparaître ces formes de travail scélérate. Non seulement c'est des travailleurs précaires, mais aussi ça a pris la place de travailleurs qui étaient en contrat plutôt solide. Notamment, il y a beaucoup de restaurants qui avaient un coursier ou deux et que bien évidemment, maintenant, ils les ont remplacés par la plateforme qui est tellement plus flexible. Hein, 24 heures sur 24, pas de vacances, pas le bras cassé, jamais de problème mécanique sur le vélo ou alors un autre coursier passe. Et donc, ça a déjà aussi dézingué tout un tas d'emplois. C'est ça qu'on ne dit pas aussi derrière, c'est que si on supprime Uber Eats, si on supprime Deliveroo et compagnie, ben en fait ça va créer des emplois corrects.
Non mais avancez carrément. Vous tassez pas trop, prenez de l'espace dans la profondeur, ça sera mieux. Ouais.
Alors là, ils sont en train de faire une magnifique banderole qui s'appelle Champion du monde de la précarité, avec un petit logo, ça c'est quoi? C'est Deliveroo d'un côté et Uber Eats de l'autre côté.
Tu peux allonger un vélo devant.
Là, on est là depuis une petite demi-heure là, pour préparer la banderole. On attend du monde quand même, enfin, d'autres gens qui devraient arriver, espérons-le. Et du coup, là, on poursuit un peu la grève contre toutes les plateformes de livraison, donc Uber Eats, Deliveroo, Foodora, Stuart. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que là, on arrive dans l'été et... Habituellement, l'été, c'est quand même une saison assez difficile quand on fait de la livraison pour ces plateformes parce qu'évidemment, on a beaucoup moins de commandes et on est en sureffectif total. Après, ce qui se passe aussi, c'est que là, les plateformes ont énormément recruté en prévision de la Coupe du Monde, sauf que, en fait, elles ont trop recruté par rapport au nombre de commandes, ce qui fait que du coup, on est énormément de livreurs pour des commandes très réduites. Et du coup, on fait une commande de l'heure, parfois moins... Parfois, on peut aller jusque 2 commandes de l'heure le soir pendant le rush. Donc, au mieux, on se dégage 11,50 euros de chiffre d'affaires de l'heure, donc c'est vraiment très faible. Et donc là, en fait, ils ont changé. Maintenant, les plannings, ils sont sur des applications internes. Et donc, on est obligé de se connecter à heure fixe toutes les semaines pour réserver des créneaux sur lesquels on peut se connecter pour recevoir des commandes. Donc, le planning, il est à heure fixe tous les lundis. Mais il faut savoir qu'en fait, il y a des accès prioritaires en fonction de nos statistiques. C'est-à-dire qu'en fonction de nos taux d'absence ou quoi que ce soit, on va avoir des accès privilégiés au planning. C'est-à-dire qu'on va pouvoir se connecter plus tôt pour prendre les meilleures places. En fait, si on ne travaille pas le vendredi soir, samedi soir et dimanche soir, en gros, ça fait baisser nos statistiques. Donc, on est obligé de travailler tous les soirs de week-end si on veut pouvoir se connecter en priorité. Et même ça, ça ne nous garantit pas d'avoir un accès le matin.
Uber, X, même Macron, même combat.
Uberisation, oh, va te le foutre dans le fion.
On est là, pour l'honneur des Deliveroo, nous on est là.
Uberisation, c'est le capitalisme en marche.
Même si vous ne voulez pas, nous on est là, pour l'honneur des Deliveroo et l'avenir de nos marmots.
Je soutiens tous ces jeunes qui bossent pour trois fois rien, qui font du vélo, qui portent des charges extrêmement lourdes. Souvent, moi, je les vois, ils sont aussi lourds qu'ils portent pour des bobos, des bourges qui n'ont pas le courage d'aller faire leurs courses eux-mêmes, alors qu'il y a des magasins au pied de leur immeuble. Et eux, je les vois, moi, je suis dans une rue à sens unique, ils prennent la rue en sens interdit pour gagner du temps, pour aller plus vite, parce que, vous savez, ils sont payés au nombre de courses, hein, donc il faut qu'ils aillent vite. Ils prennent plein de risques, c'est grave. Et pour eux, et pour les autres, ils mettent tout le monde en danger, eux aussi. Donc c'est triste, quoi. C'est un monde de merde. Moi, je vais faire mes courses, j'ai pas besoin d'exploiter des jeunes. Hein. C'est des jeunes. Hein.
Vous n'avez jamais fait appel à un
taxi ? Jamais. Même à Uber Taxi, jamais. Je prends très peu de taxi, mais quand je prends un taxi, c'est un vrai taxi. Je ne ferai jamais appel à Uber, parce que je suis contre ce système.
En fait, se battre pour tous les salariés dans le futur, parce que c'est le type de salariat qui nous attend là, maintenant. C'est exactement ça. C'est pour ça qu'il faudrait tous être avec eux.
Non, c'est pas sûr.
Hier, j'ai vu un gars, il avait fait 16 heures de connexion à peu près. Il était à 16h pour 130 euros. Il me dit, ah, c'est trop bien, je suis à 16h pour 130 euros. Je lui dis, moi, les impôts et tout, il va te rester quoi ? 80 euros pour 16h. Il me dit, ouais, mais c'est bien. Je gagne ma vie.
16 heures de travail.
16 heures d'affilée, quoi.
C'est de l'arnaque, en plus, c'est dangereux.
Et toi, pourquoi t'as arrêté ?
Hein ? Parce que j'ai eu un accident, en fait. Je roulais et une voiture ne m'a pas vu, en fait. Elle m'a vu, mais elle n'a pas mis son clignotant et elle a donné un coup de volant et je suis tombé par terre. Et après, la voiture est partie. Donc j'ai dû partir à pied avec ma jambe en boitant jusqu'à le commissariat pour qu'on m'amène à l'hôpital. Voilà. Et Uber, tout simplement, je les ai contactés, j'avais une course en ligne et ils l'ont annulé. Et ils m'ont même pas appelé. Ça fait plusieurs fois que je leur envoie des messages comme quoi j'ai l'accident, ils m'appellent jamais. Normalement, ils doivent vous rappeler, moi ils m'ont jamais rappelé, donc je travaille plus pour eux, j'en ai marre là. Ça fait quelques jours que j'ai arrêté, j'en avais marre. Et j'ai mal à la jambe et au dos et Uber, ils en ont rien à faire en fait. Donc,
t'as été pris en charge ?
Oui, par l'hôpital, mais j'ai dû payer en fait. J'ai dû payer moi-même. Ils en ont rien à faire de nous. On est des esclaves pour eux en fait. Surtout quand on est connecté 4 heures, on a une course à 4 euros en 4 heures, c'est pas avantageux pour nous. À l'époque, je travaillais pour Take It Easy. En juillet, ça fait 2 ans, je crois, ou 3 ans, ils ont fermé, ils nous ont pas payé. On n'a jamais été payé et toutes les affaires qu'on a prises chez eux avec des chèques de caution n'ont jamais été remboursées. Et on est venu sur Paris à 11 heures, on s'est connecté pour travailler, ils nous ont simplement envoyé un message comme quoi la boîte était fermée, qu'on rentre chez nous. Ils nous ont juste envoyé un SMS, comme quoi ça ne servait à rien de se connecter, que c'était fermé la boîte. Et du coup, ils n'ont payé aucun coursier, aucun restaurant. Ils ont des dettes avec tout le monde et ça fait 2-3 ans qu'on est en procès avec eux. On n'a toujours pas été remboursé.
Vous avez quel âge ?
23 ans.
Mais je crois que c'est un poids pour équilibrer. Mais non, c'est pas un vélo volé.
Pas 1000 balles, mais moins de 800 euros. Tu sais.
Wow, c'est chaud ça.
Oh, tous les 3 mois, pas un mois, c'est impossible là.
Je m'appelle Ousmane, j'ai 22 ans. Ouais. J'ai été au lycée Louis Armand à Aubonne. J'ai arrêté en première. Je faisais mécanique industrielle. Et pendant que je faisais le lycée, je travaillais chez McDonald's et ça m'a aussi énervé le McDonald's parce qu'il y avait trop de stress et ouais, c'était insupportable. Donc du coup après j'ai tout arrêté, cherché un travail et je suis tombé sur les trucs de coursier à vélo sur une émission France Info je crois. Ça m'a plu et j'ai voulu faire coursier à vélo dans une plateforme. Foodora, j'ai postulé sur leur site. ils disent ouais, vous êtes dispo combien d'heures, combien de jours par semaine, etc. J'ai répondu 7 jours sur 7 et du matin jusqu'au soir, et j'ai reçu une réponse pour aller dans leur bureau avec d'autres personnes. Et après, on a regardé une petite vidéo. C'était un coursier qui faisait sa commande normale. Et après, on a rempli un QCM et 3 jours après, on avait la réponse positive ou négative. Enfin, je pense que pour tout le monde, c'était positif. Vous avez besoin de coursiers à vélo, on va dire. Comme Deliveroo, comme Uber. Uber, ils recrutent sans contrat, c'est juste... tu mets ton nom de famille, ton prénom, tu remplis ton RIB, etc. Tu peux travailler comme ça. Avant, je connaissais pas Paris. Il y a des quartiers de Paris que je connaissais pas du tout. J'étais obligé de regarder sur Google Maps à chaque fois et tout... pour aller dans un endroit dans Paris, mais maintenant je connais pas, on va dire un peu par cœur les rues de Paris.
Vous êtes d'où vous ?
Val d'Oise. C'est assez loin, 25 km à partir d'ici, on va dire. À peu près. Comme il fait chaud, j'ai pas trop envie de prendre le train, donc je vais à vélo, je fais 25 km, 45 minutes. C'est mieux travailler dans le centre de Paris parce qu'il y a tous les restaurants. Et hors de Paris, il n'y a pas beaucoup de restaurants avec des Deliveroo. Tu sais qu'une fois avec Uber, j'ai fait le Marais jusqu'au Pré Saint-Gervais, les Lilas, on va dire, pour livrer un burger. J'ai fait 10 km, un truc comme ça, je sais plus. Pour un burger et des frites. Ouais, je suis en train de chercher le truc de Saint-Germain, parce qu'une fois, je suis parti à Saint-Germain pour me connecter. J'ai fait 55 km dans la journée.
Et en titre, vous avez mis vent de face.
Ouais, parce qu'il y avait beaucoup de vent... là.
Ah ouais, donc ça serait mieux. T'as un bon vélo en plus.
Merci.
T'as tous les moyens, t'as la classe et tout.
Merci.
T'aimes ça depuis que t'es petit ou...
Ah, depuis début 2018, cette année.
Ah, que t'as commencé.
Ouais.
Ah, ça veut dire c'est récent. Ah ouais. Donc...
Merci. Hein. Bonne soirée. Hein. Ouais, des fois, les gens dans la rue me disent ah, il est beau ton vélo et tout. Je leur dis merci. C'est gentil. Avant, je voulais faire beaucoup de commandes et avoir un mauvais vélo, mais maintenant je préfère avoir un bon vélo, rouler sur quelque chose de bien et avoir un bon aspect. Même habillé avec des trucs de cycliste et tout, et livré comme ça, les gens ils vont dire oh, vous êtes un vrai coursier. Je leur dis ouais, merci, tranquille.
Ça, un vélo comme ça, ça coûte combien ?
Un bon vélo comme ça, 1300 faut mettre.
C'est un sacré investissement ?
Oui. Il ouais, faut avoir l'argent. Au début, j'avais un gros vélo. Et au fil du temps, j'ai un peu investi dans le matériel de cycliste. C'est un ami, il m'a dit, Ousmane, achète un fixe, prends pas ton vélo Décathlon qui est tout lourd. J'ai dit, mais j'ai pas d'argent et tout. Et au fil du temps, j'ai commencé à avoir de l'argent et j'ai acheté un fixie. Et... C'est un vélo de piste, mais là, je suis en roue libre. C'est un pignon fixe. On peut rouler... Soit en roue libre, c'est en continu. Et en fixe, c'est avec ses freinés, avec les pédales, on appuie dessus et on freine facilement. J'ai acheté ce Rolltrix, c'est un truc de professionnel, Tour de France.
Ah bon ?
Ouais. Et là, depuis que je fais course à vélo, le Tour de France, ça m'intéresse. Ouais. C'est tout le temps vélo pour moi. Même sur mon Twitter, je parle tout le temps de vélo, etc. Sur mon Facebook, sur Instagram, je poste tout le temps des trucs de vélo, etc. Un truc est rentré dans ma tête comme ça et c'est tous les jours vélo. Là, j'ai enregistré une étape parce que je peux pas la regarder. J'ai enregistré une étape de 65 km. C'est la plus petite étape de cette année. Même les trucs Tour d'Espagne, des trucs comme ça, je regarde. Les coureurs et tout, je connais Christopher Froome, Romain Bardet, les coureurs italiens, Warren Barguil, etc. Dis-moi, je vais aller regarder l'arrivée à Paris. Je vais sortir de chez moi à 11h. Je vais attendre de sur l'échange du ski à l'arrivée.
Ah ouais.
Et ouais, un jour, je vais essayer de faire le Tour de France. C'est dans mes projets, on va dire. Ouais. Bah, à chaque fois, j'en parle à mes amis. Je leur dis, ouais, tu vas voir, je vais faire le Tour de France. Peut-être que je vais gagner et tout, blablabla.
Et avant de faire coursier à vélo, vous le suiviez, le Tour de France ?
Pas du tout, je regardais ça et je voyais que ça faisait 200 km ou 170. Je dis, je vais pas regarder ça pendant 4 heures, j'ai pas le temps. Mais avant ça, je connaissais pas le vélo, je connais rien au vélo, je savais pas changer une chambre à air. Les vélos, je les ramenais à Decathlon pour changer la chambre à air. Je dépensais 15 euros, 20 euros des fois. Maintenant, pour moi, c'est au moins 3 minutes de changer une chambre à air. Ça prend 3 minutes pour moi.
Ils font quoi, vos parents ?
Mon père, il est à la retraite et ma mère, elle est femme de ménage. En ce moment, elle est en train de me dire faut arrêter ça, faut trouver un vrai travail parce que ça, c'est pas un vrai travail. Là, en ce moment, j'ai postulé pour coursier.fr, j'attends la réponse. Si je trouve pas de travail fin novembre, je vais essayer de faire CQP cycle d'une école spécialisée dans ça. Une sorte de diplôme dans le domaine du vélo, réparer, etc. Au Bourget, il y a l'INCM, c'est Institut National Cycle et Motocycle. Et à Paris, dans le 15e, à Paris, il y a la même chose. Et ouais, il faut payer la formation là-bas. Pour l'instant, je vais voir ça avec Pôle emploi, etc. Pour voir s'ils peuvent me financer.
Et du coup, aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites de votre argent ?
Je dépense dans le matériel vélo et aussi je passe à mes parents pour payer un peu le loyer de la maison et... Je vais un peu économiser pour si jamais j'ai un accident, au moins j'ai un peu d'argent de côté.
Vous, ça fait combien de temps que vous travaillez ?
Ça fait un an et demi que je travaille pour Deliveroo.
Vous avez quel âge ?
J'ai 23 ans. Je suis étudiant et j'ai besoin de taffer en plus de mes études et j'ai fait d'autres jobs étudiants, j'ai fait du McDo, j'ai fait de l'entrepôt et j'ai d'autres trucs à côté qui me prennent du temps. Donc l'avantage c'était de pouvoir un petit peu mieux choisir ses horaires en n'étant pas par exemple comme un McDo obligé de travailler les deux soirs de week-end. Mais bon, en fait on est tellement mal payé qu'à la fin tu te rends compte que tu travailles quand même le vendredi, le samedi et le dimanche pour payer ton loyer quoi, tout simplement. De manière générale, ce qu'on demande, c'est pas incroyable. C'est on travaille, on produit des richesses, on fait gagner de l'argent à la boîte. Nous, ce qu'on a envie de dire, c'est qu'on a envie d'avoir une protection pour les accidents de la vie. C'est-à-dire, si on a des accidents, ne pas se retrouver sans revenu d'un coup, avoir une protection sociale décente et pas les vieux partenariats AXA Deliveroo qu'on nous propose aujourd'hui.
Justement, aujourd'hui, si vous avez un accident de vélo, comment ça se passe ?
Bah alors, très concrètement, disons, on peut pas travailler pendant une semaine et demie, deux semaines. Bah, pendant tout ce temps-là, on sera rémunéré à zéro parce qu'on pourra pas travailler. On n'aura aucune compensation de ça. Là, on a un collègue à Deliveroo qui a eu un accident. Je passe les détails, mais en gros, il s'est perforé l'estomac. Deliveroo nous a proposé une assurance qui est avec AXA. Et en fait, on a appris à ce moment-là que l'assurance ne couvrait pas le tronc. Il couvrait juste la tête, les bras et les jambes. À condition de 1000 petits détails, que le vélo soit aux normes. Qu'est-ce que c'est un vélo aux normes ? S'ils veulent des vélos aux normes, ils nous les fournissent. Et ils ne demandent pas aux travailleurs de ramener son propre vélo. Donc voilà, il y a tout ce truc-là sur la sécurité, c'est vraiment une catastrophe. Et puis il y a la sécurité aussi monétaire, très concrètement. En fait, des fois, on est disponible plusieurs heures pour la boîte. Et si on n'a pas de commande, on est payé 0 euros. Il y a des fois où en une heure, on va faire 5,75 € de chiffre d'affaires. Il y a un moment, c'est pas possible qu'on travaille dans ces conditions-là. Quoi. On est en 2018. Donc voilà, évidemment c'est compliqué, on est auto-entrepreneur, on est en train de se battre contre une nouvelle économie, mais bon c'est quelque chose qui a un ou deux ans et on a déjà fait un peu du chemin par rapport à, en termes d'organisation des travailleurs ultra précarisés de cette nouvelle économie.
Normalement on était censé être plus de 100 personnes.
Là on est combien ?
Pas vraiment 100. On va dire ce grand max 10 là pour l'instant.
Peut-être on va aller voir le match ensemble, mais pas beaucoup plus, je pense, malheureusement.
Il y a un vrai problème au niveau des mouvements qu'on essaie de créer, c'est que quand on va tracter et parler aux livreurs, le problème c'est qu'on ne les retrouve pas la semaine d'après pour les manifestations, etc. Sûrement parce que. Beaucoup sont précaires au point qu'ils ne peuvent pas se permettre de ne pas travailler une journée, vu qu'effectivement les journées ne sont pas indemnisées. Et il y en a beaucoup, la majorité, je pense que c'est ça, qui pensent que le combat est perdu d'avance. Ils pensent que c'est David contre Goliath et que cette fois David ne gagnera pas. Les ubérisés, il y en a partout maintenant. On sait que ce phénomène d'ubérisation peut s'adapter à quasiment tous les métiers qui touchent les services à la personne. Par exemple, il y a énormément de femmes de ménage qui sont payées maintenant à la chambre. Je sais qu'il y a énormément aussi de guides touristiques qui sont payés en fonction du nombre de groupes qu'ils accompagnent. Et donc, je sais que ça se répand de manière très rapide. Et je sais que, par exemple, la CGT me disait récemment qu'il y avait des gens qui payaient des nounous qui avaient eu un contentieux avec leur nounou et qui avaient dit que maintenant, ils allaient prendre une auto-entrepreneur. Enfin, tout le monde commence à comprendre que c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus souple d'avoir un auto-entrepreneur qui ne peut absolument rien dire, qu'on peut arrêter du jour au lendemain sans avoir à justifier. Je m'appelle Jean-Daniel, j'ai 23 ans, je suis étudiant en licence en droit et je suis livreur à vélo. Et je suis également depuis un an président du CLAP, collectif des livreurs autonomes de Paris. Rapidement, bon, j'ai compris qu'il y avait une véritable course à la course. En fait, on devait aller le plus vite possible pour faire le plus de courses possible et prendre le plus de risques possible. Et au bout de 3 semaines, j'ai décidé de me syndiquer. Parce que en l'espace de 3 semaines, nos conditions avaient drastiquement changé en fait. Quand j'ai commencé, on était à entre 20 et 25 euros de l'heure garantie. En fait, il suffisait de choisir des créneaux la veille. Et une fois qu'on se connectait pendant ces créneaux, on était sûr d'avoir 20 à 25 euros minimum. Et si avec le montant des courses, on touchait plus que 20 à 25 euros de l'heure, on gardait le montant des courses. Il y a 25% que Uber Eats nous prenait et 25% que le RSI nous prenait. Donc c'est pas si énorme que ça en réalité. Il faut diviser par deux pour voir ce qu'on touche vraiment. Puis 3 semaines après, on était à payer à la course et avec beaucoup moins de chiffre d'affaires possible. On prétend que les livreurs soient indépendants. Alors qu'en fait, il y a un véritable patron qui donne des ordres. Et ce patron n'a plus vraiment la forme humaine d'un manager, mais c'est un algorithme qui gère la tarification du paiement kilométrique. Et donc, on ne sait pas du tout comment on est payé, en fait. On le sait que quand on a accepté la course, on ne peut pas déduire nous-mêmes de comment ça paye en fonction du kilométrage. Parce qu'en fait, ça peut changer du jour au lendemain sans qu'on sache. Il y a un facteur X que les plateformes peuvent changer à tout moment sans jamais nous avertir. Et donc, le livreur à vélo, étant donné qu'il ne fait jamais 3 ou 4 fois la même course, il ne saura jamais que le facteur X s'est réduit. Il va falloir qu'il s'en rende compte en faisant des calculs lui-même sur ses courses, mais sinon, il ne le saura jamais. Et le problème, c'est que parfois, l'algorithme semble assez étrange et certains livreurs ont plus de courses que d'autres et on ne sait pas pourquoi, sachant qu'ils sont dans la même zone, dans le même coin. Et on aimerait savoir comment fonctionne l'algorithme. Et sous couvert de nouvelles technologies et d'intelligence artificielle, on peut se retrouver avec des travailleurs qui ne savent même pas à combien ils sont payés. Sur certaines plateformes, on a énormément de contraintes. On nous impose de porter jusqu'à 12 kilos sur des distances maximum de 15 km, ce qui est juste énorme. Alors, en sachant que pour un livreur salarié, en scooter, le maximum c'est 10 kilos. Donc nous, on a 2 kilos en plus, alors qu'on est à vélo. Très souvent, c'est un mail qui nous annonce qu'ils ont décidé que dorénavant, on pourrait porter 12 kilos. Et voilà, c'est, sans nous demander notre avis, c'est fait de manière unilatérale et sans même consulter ne serait-ce qu'un médecin du travail ou quoi que ce soit. C'est eux qui ont décidé entre eux que 12 kilos, ça a l'air pas mal et point final. Le problème, c'est que le législateur est assez inactif, le juge ne fait pas grand-chose et les plateformes se permettent tout et absolument tout ce qui ne va pas dans le monde du travail. Il y a du travail d'enfants, il y a énormément de collégiens qui se mettent à travailler avec les plateformes et qui en fait passent par des gens qui sous-traitent leurs comptes de manière illégale. En fait, c'est comme si moi, j'avais mon compte et que je proposais à un collégien ou à un sans-papier qui ne pourrait pas créer un statut d'entrepreneur de travailler sous mon avec mon application en échange de 30 à 50% de son revenu qui reviendrait dans ma poche. Je suis en train de parler avec des mineurs qui ont 14 ans, 13 ans et qui vont arrêter l'école et qui font ça à plein temps parce que quand on a 14 ans, effectivement, toucher 1000 euros, ben, c'est le grand luxe. Le plus jeune avait 10 ans. 10 ans que livreur à vélo, lui pour le coup il avait vu sa commande refusée par McDonald's parce qu'il voulait pas donner une commande un enfant de 10 ans, mais il avait fait d'autres commandes avant, et que le restaurant avait bien accepté de passer une commande à un enfant qui avait 10 ans. Moi, ce qui m'a le plus choqué techniquement, c'est le fait qu'il y ait des gens de 18 ans, 20 ans, 21 ans qui, quand ils ont commencé à travailler en tant que livreur vélo et qu'ils ont vu des sans-papiers ou des mineurs de 10 ans, 13 ans, et parfois même c'est leur petit frère, ils ont vu un moyen de s'enrichir sur leur dos, en fait, et qu'ils aient directement compris que ils pourraient profiter de la précarité de personnes encore plus précaires qu'eux pour pouvoir se faire de l'argent sur leur dos et pouvoir gagner de l'argent sans rien faire et devenir des rentiers de la précarité. Et ce qui m'a personnellement le plus touché, une personne de 62 ans qui travaillait avec Stuart parce que sa retraite était insuffisante pour qu'il puisse vivre et donc il n'avait pas d'autre choix que de faire livreur à vélo. Et c'est admirable ce qu'il a fait, mais c'est une tristesse révoltante. At first I was afraid, I was petrified. Kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights just thinking, ah, you've done me wrong, I grew strong. I learned how to get along and so you're back from outer space. I just want keen to find you here without that look upon your face. I should have changed that stupid luck. I would have made you leave your key if I had known for just a second to be back to bother me. Oh, now go walk out the door. Just turn around now. You're not welcome anymore. When you're the one who tried to break me with desire, did you think I'd crumble? Did you think I'd lean down and die? Oh, not I will survive. Yeah, as long as I know how I love, I know I'll be alive. I got all my life to live. I got all my love to give. I will survive. Survive, yeah, yeah. I will survive. I will survive. I will survive. I will survive.
La chouette vie des livreurs à vélo, c'était Les Pieds sur Terre, un reportage de Valérie Borst, réalisé par Emmanuel Geoffroy. Merci à Adrien, Benjamin, Sébastien, Ousmane, Jean-Daniel, au collectif des livreurs autonomes parisiens, à Maître Kevin Mention et à Francine Ezikovici. Jeanne Delecroix, c'est l'attachée de production des Pieds sur Terre, et Camille Richir, c'est notre stagiaire.